Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Van de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Cyril Brenning. À la réalisation Marie Placé, prise de son, Jacques Azubert.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
C'est aujourd'hui le troisième jour de notre série sur la liberté en économie. Hier, selon la formule consacrée de l'émission, nous nous sommes glissés dans la peau du grand théoricien néolibéral Hayek et de ses détracteurs. Une réflexion qui nous amène aujourd'hui à réfléchir sur la mise en pratique de la liberté en économie et sur ses limites. Dérégulation, concurrence déloyale, voilà autant de phénomènes extrêmes qui témoignent parfois de la nécessité d'une forme de régulation. Une régulation acceptée par une grande majorité de la doctrine économique, mais dont les moyens, l'ampleur et la durée sont l'objet d'éternelles querelles pratiques et théoriques. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Avec nous aujourd'hui en studio pour parler de dérégulation et de concurrence déloyale, nous accueillons Laurent Benzoni, professeur d'économie à l'université Panthéon-Assas, associé fondateur de Terra Consultant et auteur de Traité d'économie industrielle aux éditions Economica et co-auteur de Responsabilité et régulation économique aux presses de Sciences Po et Dalloz. Face à lui, autour de cette même table, David Bosco, professeur de droit privé à l'université d'Aix-Marseille, directeur de l'Institut de droit des affaires et co-auteur de droit européen de la concurrence aux éditions Brûlant. À 14h50, Mounia Van de Castel sera comme toujours parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Laurent Benzoni et David Bosco, bonjour.
Bonjour.
Quand on parle de libéralisme en économie, on a toujours l'impression que les libéraux et les néolibéraux sont des gens qui ne reconnaissent absolument pas la nécessité d'une forme d'État. C'est faux.
Oui, ça l'est, comme vous le soulignez. Ça l'est d'une certaine façon parce que, hormis quelques économistes très extrémistes, il y a quand même un très grand consensus sur la nécessité de faire intervenir une force externe au marché pour pouvoir réguler les imperfections du marché qui sont soit de nature structurelle, soit de nature conjoncturelle. Et donc, c'est là où le droit va intervenir, pour savoir jusqu'où faut-il intervenir. Et les débats ont plus lieu sur l'intensité de l'intervention que sur la nécessité de l'intervention.
Alors justement, David Bosco, quelle forme d'État, qu'est-ce qu'on imagine justement comme forme de régulation ? Quand on dit l'État en général ou la régulation, on pense à quel type d'encadrement ?
Il en existe de plusieurs sortes d'encadrement. Il y a plusieurs entités dans l'État qui ont pour fonction de faire régner la libre concurrence, ou du moins une concurrence non faussée. Vous avez d'abord des autorités administratives qui le font. Pendant un certain temps, en France, c'était le ministère de l'économie qui avait un rôle important. Il l'a encore, mais dans une moindre mesure. Et puis nous avons surtout, aujourd'hui, une forme plus moderne d'action administrative qui est le fait d'autorités administratives indépendantes, qu'on appelle parfois des autorités de régulation, et qui ont des fonctions assez différentes selon le marché dans lequel elles s'inscrivent. Et je n'oublie pas aussi les autorités judiciaires, puisque les juges ont un rôle important à jouer aussi dans la mise en œuvre des règles relatives à la concurrence.
Donc en réalité, c'est même l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que dans la logique libérale, il faut même un État fort, puisqu'il permet de préserver un certain nombre de droits nécessaires, donc le droit de propriété, le droit de contrat.
C'est tout à fait exact. J'ai entendu dans votre présentation que hier vous parliez de Friedrich Hayek.
Vous aussi vous avez du mal à le dire, Friedrich von Hayek.
Tout à fait. Eh bien, on dit souvent de lui que c'était l'un des plus libéraux des libéraux. Il se trouve que lui aussi avait le sentiment qu'il fallait un État fort. Alors évidemment avec un rôle particulier dans l'économie, mais même lui reconnaissait que l'État devait avoir un monopole de la coercition et que ça devait être un État solide qui avait des principes forts.
Alors, les principes forts, c'est d'un côté accorder des droits et les préserver et les protéger, et de l'autre, un système juridictionnel qui permet de régler les différends ou de sanctionner.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous avons en France une distinction entre les actions publiques et les actions privées. Les actions publiques sont celles mises en œuvre par les autorités administratives, et puis les actions privées sont celles des victimes ou des personnes particulières, des entreprises qui souhaitent voir le juge régler leurs différends.
Donc on retrouve là ces notions qui au départ philosophiquement avaient les mêmes racines du libéralisme qui se retrouvent, libéralisme politique, libéralisme économique, quoique distinct, qui se retrouvent parfois en tout cas en termes d'intérêt. On a besoin des deux pour assurer un système économique.
On a besoin absolument des deux. C'est qu'il n'y a jamais de garantie, quoi qu'on ait pu penser Smith, que le seul intérêt individuel permette d'assurer l'intérêt collectif. Et même Smith avait tout à fait conscience, quand on le lit bien, que la somme des intérêts individuels ne débouche pas nécessairement sur l'intérêt collectif à travers les mécanismes d'échange marchand.
Alors il faut encore qu'on fasse un petit travail de définition, puisqu'on a parlé de dérégulation, on a parlé de concurrence déloyale. On va écouter Pascal Lamy dans Les controverses du progrès sur France Culture le 25 juin 2010, nous parler justement de ces principes.
Quand vous dites libéralisation, intentionnellement ou non, vous confondez deux notions très différentes qui sont l'ouverture et la dérégulation. En français, libéralisation, ça veut dire les deux. Libéraliser le commerce, ça veut dire ouvrir le commerce. Libéraliser les télécommunications, ça veut dire déréguler les télécommunications. Moi, je ne suis pas dans le business de la dérégulation. L'Organisation mondiale du commerce est une organisation de régulation. Par contre, je suis dans le business de l'ouverture des échanges. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ouverture des échanges marche, alors que la fermeture des échanges, ça ne marche pas. Ça, c'est une leçon de la vie, de l'histoire. Les pays qui se sont ouverts se sont mieux développés et dans l'ensemble ont mieux réduit la pauvreté que ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, de mon point de vue, et je peux ne pas être d'accord avec ça, mais j'ai 153 membres, États membres à l'OMC qui partagent ce point de vue, aller dans la direction de l'ouverture des échanges, c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça n'est pas ça qui a provoqué la crise. C'est un défaut de régulation. Distinguons donc, s'il vous plaît, l'ouverture, ses bénéfices, ses coûts, et il y a aussi des coûts. Et la dérégulation, ce sont deux choses différentes.
Alors, Laurent Benzoni, Pascal Lamy, à l'époque, en 2010, est directeur de l'OMC, et donc il nous définit un certain nombre de textes et nous invite à ne pas confondre libéralisation au sens d'ouverture et de dérégulation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction ?
Pas
vous
trop.
Avez un peu haussé les sourcils.
Pas trop, même si je dois m'inscrire en faux contre cette personne qui a quand même eu des responsabilités importantes. Pourquoi pas trop ? Parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire quand on dit déréglementation des télécommunications ou dérégulation des télécommunications, parce qu'en fait au départ on disait déréglementation et c'est le terme américain qui s'est imposé, déregulation.
En fait c'est exactement la même chose. C'est ça que vous nous dites.
Dans le terme français, là je parle sous le contrôle de mon collègue juriste, la réglementation, le règlement, c'est quelque chose qui est édicté par les ministres en général. Et donc la déréglementation serait quelque chose qui viendrait, on abolirait les règlements des ministres. C'est pas le cas. La logique, c'est qu'on fait d'abord des lois, c'est même plutôt des directives au niveau européen, qui se transforment en lois, qu'on transpose en droit. Et donc pour les télécommunications, c'est exactement comme le commerce international, ce qu'il décrit. C'est une ouverture à la concurrence, une ouverture des marchés des télécommunications, qui était strictement impossible puisque la loi interdisait la concurrence et le marché.
Donc en réalité, c'est la loi, ou plutôt l'absence de loi, ou la modification de cette loi, qui ouvre les échanges. David Bosco, vous êtes d'accord ?
Dans les télécommunications, alors si vous reprenez l'histoire, c'est toujours pareil, ça va aller très loin. La poste est régulée depuis Louis XI, c'est un monopole royal. Et ensuite, les télécommunications, ça a été régulé en 1830, alors même que les télécoms n'existent pas, mais on a décrété que l'État était le seul à pouvoir transmettre des signaux sous quelque forme que ce soit sur la voie publique.
C'était les monopoles d'État.
Et c'est pour ça que vous aviez aussi après la monopolisation, le monopole d'État de la radio. De la télévision.
Absolument.
Et donc, vous avez des monopoles d'État, parce que l'État avait décrété, la loi avait décrété que c'était interdit de le faire.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est par la loi qu'on dérégule d'une certaine manière ? Est-ce que d'un point de vue mécanique, c'est juste, David Bosco, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis d'accord avec l'idée que c'est la loi qui change le modèle, qui change les règles du jeu. Au fond, j'ai l'impression que ce que veut dire M. Lamy, c'est qu'il ne faut pas confondre une situation où on ouvre un marché à la concurrence, par exemple un marché qui est occupé par un opérateur public en y faisant rentrer des concurrents. Il ne faut pas confondre l'ouverture d'un marché avec la dérégulation du marché. En réalité, quand vous ouvrez un marché, et M. Benzoni le disait justement, le marché des télécoms, quand on l'a ouvert à la concurrence, ça ne veut pas dire qu'il est devenu dérégulé, c'est simplement qu'on a changé la régulation. Et au contraire, après l'ouverture des télécoms, c'est là qu'est montée en puissance une régulation puissante. Donc il faut bien distinguer, je pense.
Donc ça veut dire quoi ? Il n'était pas dérégulé. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donnez-nous un exemple.
Je veux dire simplement que quand vous avez un opérateur en monopole, eh bien c'est un opérateur qui n'a pas à affronter de concurrents.
Donc il pratique ses prix ?
Il pratique
librement.
Il pratique ses prix sous le contrôle d'un certain nombre d'entités.
Jamais librement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État lui délègue le monopole, souvent il peut être entreprise publique ou établissement public ou administration. France Télécom était une administration, alors que par exemple l'ORTF était une régie, c'était donc des statuts juridiques très différents. À aucun moment l'État abandonne la formation des prix à un acteur à qui il a délégué le monopole.
En revanche, il n'a pas en face de lui à faire face à la concurrence.
Voilà, et c'est à partir du moment où des concurrents apparaissent qu'il est nécessaire de les accompagner dans le processus concurrentiel. Parce que c'est très difficile quand vous êtes un nouvel entrant de faire face à un opérateur écrasant. Et donc dans tous les secteurs que l'on a libéralisés, il a fallu que l'État accompagne les concurrents. Et donc, on n'est pas du tout passé à un mouvement de dérégulation. Au contraire, on est arrivé sur un modèle de régulation où l'État a accompagné les concurrents pour affronter l'opérateur en place.
Alors, on va revenir sur cet exemple des télécoms et de la téléphonie. On va d'abord donner les dynamiques, peut-être les dynamiques qui sont celles du marché concurrentiel. Laurent Benzoni, comment est-ce que vous raconteriez justement cette dynamique ? Alors, bien sûr, il y a l'offre et la demande. Mais encore.
Alors, bon, sur les marchés concurrentiels, si, d'un point de vue de la théorie économique, on a toujours l'idée de marché de la concurrence pure et parfaite, qu'il ne faut pas donner une autre vertu que celle d'une norme qu'on n'atteint jamais.
C'est un idéal, c'est un modèle.
C'est un moyen de pouvoir construire un équilibre partiel, où les comportements des individus sont strictement rationnels. Vous imaginez la difficulté de retrouver ça dans la réalité.
Et dans un monde uniforme, homogène.
Voilà, produit homogène, transparence de l'information, atomicité des offreurs et des demandeurs, c'est-à-dire que tout le monde est si petit sur le marché que quelle que soit la décision qu'il prend, il ne pourra pas agir sur le marché. Et donc, ces conditions-là ne se retrouvent jamais. En revanche, ça a permis de dire, eh bien, si on a cet équilibre-là entre offre et demande, tel que le définit le modèle théorique, on a un optimum. Et cet optimum est défini comme ce qui permet de maximiser le bien-être collectif. Entendu comme, et ça sera très important peut-être pour la suite du débat, la somme du surplus des demandeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les consommateurs, et des producteurs.
Alors, on va prendre un petit exemple pour appliquer
pas,
ce modèle qui est quand même un peu théorique.
Ce n'est pas seulement la défense de l'intérêt du consommateur. Normalement, c'est l'équilibre des deux. Et ça pourra être intéressant pour la suite du débat.
Prenez-nous un exemple qu'on comprenne bien votre
exemple,
explication.
Quand l'autorité de la concurrence dit « je défends le consommateur », elle va prendre une décision pour laquelle elle va regarder strictement l'intérêt du consommateur. Et donc, ça va maximiser l'intérêt du consommateur. Si c'est par exemple une entente qui va faire baisser les prix, on va pouvoir dire, regardez bien, en baissant les prix, le consommateur va récupérer plus d'argent, de pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est pas de l'argent en sens, mais c'est du pouvoir d'achat qu'il va récupérer. Et donc, c'est bien pour le consommateur. La seule chose est qu'en baissant les prix, c'est un peu ce qu'oublie l'ami d'ailleurs, vous pouvez créer des difficultés économiques importantes dans les entreprises. Et donc, pour elles, de leur côté, c'est une baisse de leur surplus. Et donc, l'équilibre de la concurrence pure et parfaite, c'est regarder si l'augmentation du surplus du côté des consommateurs est compensée ou pas par la diminution du surplus chez les producteurs. Si la baisse du surplus chez les producteurs est supérieure à l'augmentation du surplus du consommateur, la décision est mauvaise du point de vue de la théorie économique. Mais pourtant, elle sera toujours bonne du point de vue du droit de la concurrence qui ne s'intéresse qu'aux consommateurs. Ça va,
ça va, on suit. Alors justement, on se dit que, David Bosco, comment est-ce qu'on peut réguler dans une économie, en tout cas dans un modèle économique qui se veut libéral ? Alors, il y a eu petit à petit plusieurs types d'autorités, d'organes de régulation qui ont été créés. Peut-être on peut parler justement de l'autorité de la concurrence qu'on a commencé à évoquer.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire à son sujet parce que c'est une autorité qui est très importante. Mais avant cela, peut-être me permettrez-vous une précision terminologique qui est peut-être éclairante, qui accourt aujourd'hui dans notre droit européen et dans notre droit français. C'est entre les marchés concurrentiels que vous évoquiez et puis les marchés régulés. Il me semble que cette distinction est éclairante. Un marché régulé, c'est un marché qui ne trouverait pas son équilibre par lui-même et qui donc fait l'objet d'une régulation par un opérateur public, donc une autorité administrative qui aura pour fonction de contrôler ce marché pour, comme je le disais tout à l'heure, accompagner les petits concurrents dans la concurrence qui vient de s'ouvrir.
Donc si on fait un parallèle avec cette idée de liberté, en fait, c'est pour le rendre libre qu'on le régule.
Voilà, c'est pour aider la concurrence à devenir plus libre. Alors c'est évidemment un mécanisme qui est souvent assez progressif, mais c'est là l'esprit des marchés régulés. Et puis ensuite, il y a les marchés concurrentiels, qui ne se caractérisent pas par ce type de barrière à l'entrée initiale. Ce ne sont pas des marchés qui ont été régulés par l'État, enfin contrôlés par l'État dans le passé. Et ces marchés concurrentiels, ce sont ceux sur lesquels, en général, l'autorité de la concurrence exerce sa mission. Alors, pour parler de l'autorité de la concurrence, il faut rappeler que c'est une autorité qui est indépendante de l'administration, en ce sens qu'elle ne prend pas ses directives du ministère de l'économie. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que quand vous êtes une entreprise internationale et que vous devez investir dans un pays, de savoir que les règles du jeu seront surveillées par un opérateur, par un agent indépendant,
qui n'est pas politique,
qui n'est pas politisé, c'est très important. Et c'est un grand progrès pour la France que cette autorité soit devenue tout à fait indépendante, dans une période qui est d'ailleurs assez récente, puisque la vraie indépendance pour moi de l'autorité de la concurrence date seulement de 2008, puisque le contrôle des concentrations...
Donc de la crise de 2008, est-ce qu'elle a un lien ou est-ce que... Pas nécessairement.
Je n'en suis pas certain, mais je pense que 2008, ça a été une date importante, parce qu'on s'est convaincu que d'avoir une autorité indépendante permettrait d'envoyer un signal favorable pour l'économie française. Et donc cette autorité, elle naît en 1986, sous un autre nom, c'était le Conseil de la concurrence. Et progressivement, donc en 2008, elle a gagné un certain nombre de prérogatives. La première qu'il faut évoquer, c'est le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, donc, par exemple les ententes, on pourrait parler par exemple des cartels de prix, c'est une entente très connue, ou les abus de domination d'une entreprise très puissante qui commettrait un abus de sa puissance.
Alors elle est une forme de gendarme.
C'est le gendarme de la concurrence, en effet.
Alors, elle est composée d'experts essentiellement ?
Elle est composée d'un collège d'experts, en effet, qui sont bien souvent des personnalités qui viennent de l'administration ou de la magistrature, avec aussi des professeurs d'université. Elle est composée aussi d'agents de l'administration qui s'occupent des enquêtes et qui s'occupent aussi des appréciations économiques de certaines affaires.
Alors vous avez évoqué justement dans quel cas elle pouvait intervenir. Donc c'est généralement sur des comportements d'ailleurs passés aussi qu'elle intervient. Quelles sont les formes de défaillance au marché qu'elle vient souligner justement ? Défaillance du marché.
Je dirais que l'autorité a plusieurs rôles. Le premier rôle qui me paraît très important de signaler, c'est un rôle de sachant. L'activité première de l'autorité, en tout cas historiquement, c'était un rôle consultatif. Et donc elle prenait la parole pour expliquer dans le débat public comment la concurrence devait fonctionner et comment il faudrait peut-être réformer certains secteurs. Dans le passé récent, on a entendu par exemple l'autorité de la concurrence se prononcer sur la libéralisation des autocars ou sur la libéralisation du secteur ferroviaire.
Je fais une petite parenthèse, Laurent Benzoni, on se demande comment on peut émettre des avis en tant que sachant sans en étant totalement extrait, en faisant abstraction de la politique, puisque c'est aussi des visions politiques de l'économie. Qui sont présentés aussi.
Je vais vous faire une petite parabole de la mythologie grecque. C'est-à-dire que vous prenez un village dans lequel on a décrété que les hommes ne pouvaient pas se raser eux-mêmes parce que s'ils se rasaient, ils pouvaient se trancher la gorge et donc mourir. Et donc, dans ce village, seul le barbier a le droit de raser les hommes. C'est une règle qui est posée. La question est de savoir, est-ce que le barbier est rasé ? Alors, vous transposez ça dans le domaine de la régulation. On décrète à un moment que sur les marchés, les entreprises ne peuvent pas s'auto-organiser elles-mêmes, qu'il faudra une autorité pour vérifier que le marché fonctionne. La question que vous pouvez vous poser, c'est qui régule l'autorité ? Et il y a normalement une indépendance, il y a quand même parfois des connexions entre les décisions politiques et les décisions d'autorité. Mais effectivement, on peut se demander, et ça c'est une question de nature politique, est-ce qu'en confiant le pouvoir, un pouvoir grandissant sur le plan économique à des autorités indépendantes, on ne crée pas finalement un nouveau pouvoir qui serait le pouvoir technocratique sans contrôle, ni des juges.
Ça, c'était une partie de ma question. Mais l'autre partie de ma question, c'était aussi, est-ce qu'il n'y a qu'une seule solution à ces questions de régulation? J'entends par là que, est-ce que dans les évaluations, est-ce qu'on est sûr d'avoir des critères objectifs qui permettent de dire que, oui, on a enfreint les règles de la concurrence, que cette concurrence est déloyale ou pas? Est-ce qu'on a à ce point des outils qui permettent de rendre des avis, David Bosco?
On a le soutien d'experts. En particulier, ces dernières années, on voit une montée en puissance de l'expertise économique en droit de la concurrence. Et on a donc des photographies du réel qui sont livrées par des économistes, par des experts, qui soutiennent le point de vue de l'autorité. Et c'est sur ces analyses-là, et sur son expérience aussi, son expertise, qu'elle peut se penser fondée à apporter un regard. C'est un avis, évidemment. Il y a d'autres perspectives sur un sujet. Mais le point de vue de la libre concurrence est porté par l'autorité de la concurrence.
Alors, on parlait justement de la régulation par l'autorité de la concurrence. Il y a aussi l'autorité de régulation. Alors là, les choses sont prises dans un autre ordre, en tout cas de temporalité.
Oui, les autorités de régulation ont à peu près la même nature. Ce sont des autorités administratives, elles aussi. Et ce sont des autorités qui ont souvent aussi la même composition, avec le même type de profil parmi les membres de ces autorités. Souvent des hauts fonctionnaires, des magistrats ou des personnalités du secteur qui sont assez connues. Ce qui est un peu différent, c'est que les autorités de régulation n'interviennent pas au même moment du processus. C'est-à-dire que les autorités de régulation ont plutôt pour fonction de contrôler l'amont d'un marché, c'est-à-dire les modalités d'accès au marché, et elles ont pour fonction essentielle, bien souvent, de s'assurer que on peut, quand on est un opérateur concurrent d'un opérateur en place, avoir accès au marché.
Laurent Benzoni, vous évoquiez la concurrence et le consommateur, le bien-être du consommateur. C'est là un élément important quand on parle aussi de concurrence, de ne pas oublier la place du consommateur.
Oui, tout à fait, puisque c'est la place essentielle qu'on met au niveau de l'autorité de concurrence, alors que l'autorité de régulation, qu'on appelle souvent autorité de régulation sectorielle, parce que quelque part l'autorité de la concurrence, elle régule tous les secteurs, et l'autorité de régulation sectorielle, elle va plutôt s'intéresser à un secteur en particulier. Mais comme ça a déjà été souligné par le professeur Bosco, c'est que l'autorité de régulation sectorielle va protéger la concurrence, mais d'une certaine façon, elle va aider aussi certains concurrents. Ce que ne doit jamais faire l'autorité de concurrence. Ça doit être neutre par rapport aux concurrents. Alors qu'une autorité de régulation va essayer d'aider des opérateurs qui arrivent sur les marchés de petite taille à pénétrer sur le marché. Donc il va y avoir une forme de protection du concurrent pour pouvoir permettre la concurrence.
Et là, au regard de notre idéal de liberté, on voit bien que la régulation est aussi imparfaite au final qu'un modèle qui fonctionne sans régulation. On arrive toujours face à mal.
Il faut bien comprendre que alors là, on est dans l'antithèse de la spontanéité de l'organisation du marché. Quand on a une autorité de régulation, les économistes disent même qu'il y a un design organisationnel des marchés. C'est-à-dire que selon les décisions que vont prendre les autorités de régulation, le marché va avoir une configuration plutôt qu'une autre. On a des tas d'exemples dans ce sens. Hein. Et donc, il faut être très conscient qu'effectivement, ces autorités dites indépendantes structurent ont un rôle extrêmement important dans la structuration des marchés qu'elles vont réguler ou qu'elles régulent.
Et si David je peux Bosco. Me permettre d'ajouter une chose sur ce point qui me paraît tout à fait essentiel. On a eu, il y a quelques années, une démonstration parfaite des frictions qui peuvent exister entre le pouvoir politique et le pouvoir des autorités de régulation.
Parce que c'est devenu un sujet sensible, la régulation.
Tout à fait. Et le rôle qu'assument ces autorités indépendantes dans la direction de l'économie, comme le soulignait le professeur Benzoni, est aujourd'hui fondamental. Et je me souviens, il y a quelques années, M. Montebourg, qui était alors ministre du redressement productif, s'exprimait devant le secteur des télécoms.
Absolument, on va l'entendre si vous voulez.
Ah oui.
Alors, racontez-nous pourquoi il s'exprimait et ensuite on va l'écouter.
Et je ne sais pas si cet extrait-là que vous allez passer, mais je me rappelle qu'il avait eu des mots très durs à l'égard des autorités de régulation. Il avait notamment qualifié l'autorité de la concurrence de comité Théodule, ce qui est une forme de mépris, c'est-à-dire un aréopage d'experts qui, au fond, n'ont pas la légitimité pour imposer les décisions qu'ils souhaitent imposer au marché.
Alors là, c'est moins violent ce qu'on va entendre, mais on va entendre quand même Arnaud Montebourg suivi d'Emmanuel Macron.
Ce sera la bataille des modernes contre les anciens. La bataille de l'audace contre le conformisme. La bataille contre les révolutionnaires du statu quo, contre la vie chère. De nombreuses professions aujourd'hui sont en situation de monopole et captent par leur position des revenus à la population pour des services payés trop chers, qui entament le pouvoir d'achat des ménages.
En aucun cas, il ne s'agit d'une déréglementation, d'une dérégulation. En aucun cas, il ne s'agit d'une financiarisation. Nous n'ouvrirons pas le capital des pharmacies, des notaires ou que sais-je, à des partenaires financiers extérieurs, à des banquiers ou que sais-je encore, ou qu'on a voulu agiter des fantasmes.
Alors là, ce que souligne Arnaud Montebourg, à l'époque ministre de l'économie, c'est le monopole va à l'encontre du consommateur puisque il s'insurge contre la vie chère. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue économique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout à fait pertinent, Laurent Benzoni?
Alors, tout ça est très paradoxal constamment, parce que le monopole d'EDF, ce sont les tarifs bleus, et les tarifs bleus sont en dessous du tarif concurrentiel, de telle sorte que l'État français a un problème vis-à-vis de la réglementation européenne et même vis-à-vis du propre Conseil d'État qui a dit qu'il ne fallait pas que l'autorité de régulation fixe les tarifs si bas. Donc, vous avez un monopole qui produit des tarifs très bas. Si le monopole est très efficient, si les structures économiques sont telles qu'on ne peut pas avoir la concurrence, il faut admettre définitivement que dans certains domaines, le monopole ne peut pas être contesté ni contestable.
Donc la concurrence ne ferait pas toujours baisser les prix, c'est ce que vous nous dites.
La concurrence ferait surtout qu'elle conduirait à une rupture des économies d'échelle, c'est-à-dire le fait qu'on ait moins de quantité produite par un seul acteur, donc les coûts moyens augmenteraient, et qu'à ce moment-là, si les coûts s'élèvent, les prix vont s'élever mécaniquement à long terme.
Elle concerne notamment des très très grandes entreprises.
Surtout certains types d'activités ou d'infrastructures. Parce que quand on parle par exemple d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, ne sont ouverts à la concurrence que les trains qui circulent sur les rails, mais pas les rails.
S'il fallait investir dans le fait de refaire toutes les structures
ferroviaires,
vous
n'allez pas avoir une deuxième gare de l'Est ou une deuxième gare du Nord qui va s'installer à Paris. Donc vous n'en avez qu'une, parce qu'on ne va pas dupliquer les gares, on ne va pas dupliquer les infrastructures ferroviaires. Donc, quand bien même on a ouvert à la concurrence, on reste toujours dans ces activités-là à l'intérieur du secteur sur des monopoles. Et bien là, parce que là, on estime que l'ouverture à la concurrence n'amènera rien. Définitivement rien.
Quant à ce que dit Emmanuel Macron, justement, il dit la déréglementation, la dérégulation, il dit il ne s'agit pas d'une financiarisation. Alors ?
Alors, je pense qu'il se référait ici à certaines professions réglementées qu'il avait décidé d'ouvrir, et on l'a vu avec les professions judiciaires notamment.
Les notaires, les huissiers.
Oui, les notaires, les huissiers. Moi, il me semble que cette réforme est plutôt positive, parce que le constat qui est fait par le gouvernement à l'époque de cette ouverture de la concurrence, concurrence, était exact. Nous avons, pour les professions comme les notaires ou les huissiers de justice, des professions dont l'accès est fermé.
Alors, il faut expliquer pourquoi. Soit il y a des numerus clausus, soit on parle aussi de professions parfois qui ont besoin d'une licence particulière. Il y a tout un tas d'exemples qui font que ce sont des professions réglementées.
Oui, il peut y avoir de très bonnes raisons à la fermeture d'une, ou du moins aux restrictions d'accès à une profession. Et en général, ces raisons sont tout à fait bien fondées.
Vous avez un exemple en tête ?
Je pense que pour les notaires, pour les huissiers de justice, vous avez peut-être aussi évoqué les taxis. Il y a souvent des raisons de services publics qui sont à l'origine de ces barrières réglementaires. La difficulté, c'est quand ces barrières réglementaires promeuvent une sorte d'économie de rente. Et à ce moment-là, il faut ouvrir. Et le deuxième.
Donc là, c'est la mise en concurrence de plusieurs principes. La liberté d'un côté contre finalement une sorte de nécessité de service public.
Oui, il y avait un autre équilibre à trouver entre le service public et la liberté. Et je pense que ce qu'a voulu faire le législateur avec l'ouverture de certaines professions réglementées, c'est de trouver un meilleur équilibre.
Si vous voulez être libre et heureux, si vous voulez être fort comme un dieu, alors il faut devenir riche, il faut qu'on se batte, il faut qu'on triche. La liberté libère à l'avancée, ça n'est pas une liberté surveillée, car tout se vend et tout s'achète, même le vent, même la fée. Mais pour cela, faut être aventurier. Money is time, time is money. Il faut avoir de l'ingéniosité, abandonner les scrupules mal placés et prêcher la morale aux autres. Ce sera vous, leur bon apôtre, car le bon sens porte toujours ses fruits. Petit profit deviendra grand aussi. La réussite, ça se calcule, les capitaux, ça s'accumule. Mais pour cela, faudra vous dépêcher. Money is time, time is money.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Moi, je préfère pêcher le cachalot et m'en aller accrocher à son dos vers une terre libre et heureuse, pleine de musique et de danseuses. Mais pour cela, faudra que vous luttiez si vous aimez la liberté. Mais pour cela, faudra que vous luttiez.
Pour la deuxième année, l'UFC Que Choisir monte une opération d'achat groupé de gaz. 174 000 personnes se sont déjà inscrites. L'association a lancé un appel d'offres aux fournisseurs avec cette condition, proposer les prix les plus bas du marché. Et c'est le Belge Lampiris qui l'emporte. Son tarif, 13% moins cher que GDF Suez, soit en moyenne une économie de 145 euros par an pour une famille qui se chauffe au gaz. Et pourtant, 7 Français sur 10 restent fidèles aux tarifs réglementés, alors que rien n'est plus simple que d'aller voir la concurrence, comme l'explique Cédric Musso. C'est lui qui a monté l'opération à l'UFC.
7 ans après la libéralisation du marché de l'énergie, vous avez encore près d'un Français sur 2 qui ignore que ces marchés sont libéralisés. Ils pensent encore qu'il n'y a qu'un fournisseur de gaz en France. Et quand ils savent qu'ils peuvent changer, ils pensent que ça va être long, compliqué. Or, le secteur de l'énergie est le secteur le plus simple en termes de changement d'opérateur. Vous pouvez résilier à tout moment, gratuitement. Et c'est le nouveau fournisseur qui s'occupe des démarches de résiliation. Vous n'avez aucune démarche à effectuer. De même, les idées reçues ont la vie dure. Vous avez des consommateurs qui pensent encore qu'on va leur couper le gaz le temps du changement de fournisseur. Non, le gaz continue d'affluer dans les tuyaux. Vous n'avez pas à changer de compteur, vous n'avez pas à changer de chaudière. Et donc, la première vertu de la campagne, elle est là. C'est une vertu pédagogique. Répétez inlassablement, changer de fournisseur d'énergie, c'est simple, c'est possible à tout moment.
C'était Cédric Musso du FC Que Choisir qu'on entendait le 21 janvier 2015 dans le journal de Mickaël Thébault sur France Inter. On se demande comment circule justement l'information et on a l'impression qu'on oppose d'un côté les consommateurs avec ces professions. Justement, qui sont confrontés soit à la libéralisation, qui sont confrontés à la libéralisation, on peut dire ça comme ça.
J'aimerais dire un mot sur le rôle des associations de consommateurs. C'est un rôle qui est essentiel. Et je pense que c'est un rôle qui aurait pu être encore plus important, notamment dans la perspective de la création d'actions de groupe, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a quelques années, la France s'est dotée d'un mécanisme d'action de groupe pour permettre aux consommateurs de prendre en main le sujet des pratiques contraires à la concurrence. Et de ce point de vue-là, l'annonce qui a été faite de réduire les subventions accordées aux associations de consommateurs n'est pas un bon signal. Alors, pour ce que vous avez signalé comme un conflit possible entre les consommateurs et les professionnels...
Parce que la norme, quand même, c'est que quand on met en concurrence, souvent, les prix baissent.
Tout à fait.
Mais quand même, on peut rappeler la règle générale, quand même.
Non, parce que parfois,
parfois, ce n'est pas le cas.
Mais bien sûr.
Mais c'est souvent l'objectif.
Ça dépend des évolutions des coûts qu'il y a derrière, des sous-jacents de coûts qu'il peut y avoir. Et un État peut fort bien... Vous mettriez en concurrence aujourd'hui la RATP, le prix du billet serait multiplié par 2. Puisque si on supprime les subventions, c'est fini. Donc l'État ne subventionnerait pas. Vous avez des sous-jacents de coûts qui font que ça monte de toute façon à long terme. Et le prix de l'électricité va monter à long terme. Aujourd'hui, on ne sait pas... faire autrement, surtout si on veut décarboner et dénucléariser la production d'électricité.
Alors d'autant plus qu'il y a tout un tas de phénomènes qu'on ne peut pas prévoir.
Non, la seule chose que peut vous garantir la concurrence, c'est que vous aurez le meilleur prix des prix qui augmentent. mais c'est tout ce qu'elle pourrait vous garantir.
Alors d'autant plus que quand on dérégule, il ne suffit pas de déréguler pour que justement le marché s'ouvre. Peut-être on peut expliquer ce phénomène. Il y a des secteurs dans lesquels l'ouverture, la libéralisation n'a pas fonctionné d'emblée. Il y a eu nécessité d'avoir des régulations au moins temporaires.
Tous les secteurs, quand ils ont été ouverts à la concurrence, nécessitent un accompagnement. L'ouverture au marché, ce n'est pas la production immédiate de la structure de marché qui organise la concurrence, c'est le régulateur qui va l'organiser. Et tous les marchés, pourquoi ? Parce que, comme on l'a déjà dit, c'était souvent des monopoles historiques. Donc des entreprises fournissent pour l'ensemble de la population nationale un service. Plus souvent, c'est un service sous forme de fourniture de qui peut être de biens comme de l'électricité ou du gaz, mais c'est considéré comme une fourniture de service. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise installée a une identité, une reconnaissance, une expérience, un savoir-faire qu'un petit opérateur entrant a du mal à pénétrer, surtout en France. Pourquoi ? Parce que en France, paradoxalement, par rapport à d'autres pays, nos entreprises de services publics ont plutôt ou avait plutôt une bonne réputation. EDF, GDF, avait plutôt une bonne réputation auprès des consommateurs. C'est peut-être moins vrai de la SNCF, mais en tout cas, pour ces grandes entreprises, ou France Télécom à l'époque, avait plutôt bonne réputation auprès des consommateurs. Et donc, quand vous êtes habitué à avoir un fournisseur qui vous donne satisfaction, l'incitation à changer pour un prix qui est finalement pas beaucoup plus petit, pas nécessairement bien garanti, est assez faible.
D'où les phénomènes de viscosité.
D'où le phénomène de viscosité, en particulier dans le domaine de l'énergie. C'est moins vrai dans le domaine des télécommunications, mais pour une raison qui tient d'abord plus au mobile, parce que les services mobiles sont nés dans la concurrence. Donc c'est pas un opérateur historique d'une infrastructure qui l'a monopolisée et qui s'est ouverte à la concurrence, c'est qu'on a fait croître en même temps des opérateurs qui étaient en concurrence.
Mais parce qu'il y a eu une innovation technique. Avec le numérique.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est parce qu'on a ouvert un marché grâce à l'innovation et non pas ouvert un marché grâce à la loi. Alors, il y avait quand même de la loi pour ouvrir le marché.
Il faut aussi ajouter que les opérateurs historiques ne sont pas toujours très enthousiastes au moment de la libéralisation et ne facilitent pas toujours les choses pour les nouveaux entrants.
Très clairement.
Et vous avez justement là un rôle important à jouer pour l'autorité de la concurrence qui a à plusieurs reprises tapé sur les doigts d'opérateurs historiques qui avaient tout fait pour prolonger au fond leur rente de monopole par des moyens plus ou moins avouables.
Alors qu'est-ce qui peut se faire justement ? Qu'est-ce qui peut empêcher la réelle concurrence de s'installer ? Que peuvent faire les entreprises ?
Vous avez par exemple des affaires, je ne vais pas citer d'entreprise, mais des affaires qui concernent par exemple le fait qu'une entreprise une entreprise qui avait un monopole public conserve les fichiers de ses clients pour en faire usage sur le marché concurrentiel.
Ça s'appelle le win-back en économie. C'est-à-dire que vous avez tous les clients du marché au départ. Quand un client part, c'est qu'il va chez le concurrent. Donc il commence à partir. Vous le rappelez en lui disant « Ah, pourquoi tu pars ? Ah, tu pars parce que ça ? Attends, je vais te laisser, je vais faire en sorte que tu restes pour améliorer et que tu n'as plus intérêt à partir. »
Oui, vous pouvez avoir aussi des pratiques tarifaires. De prix qui sont particulièrement bas, au mépris de toute rentabilité économique, pour barrer l'accès aux concurrents. Vous avez des pratiques d'opérateurs publics qui vont surréserver des infrastructures pour que les autres entreprises n'en profitent pas.
Donc c'est tous ces phénomènes-là qui vont être sanctionnés par la loi.
Ce sont des
poursuites judiciaires classiques qui s'entament en ce moment-là.
Là, pour les affaires dont je viens d'évoquer les faits, ce sont des affaires qui sont plutôt portées devant les autorités de concurrence et qui prononcent donc des amendes ou qui demandent un changement de comportement des entreprises.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la manière dont les États accompagnent certaines dérégulations, justement, notamment quand elles concernent des secteurs très importants ? David Bosco, comment est-ce que ça s'est fait ? On pense justement aux télécoms, on a dit, ensuite pour les télécommunications, on a pensé au fait que c'était lié à une innovation technologique, donc là, tout a émergé ex nihilo. Mais quand il y a eu une ouverture, justement, on pensait à l'énergie, notamment.
Oui, alors, peut-être peut-on revenir sur le modèle qui est souvent retenu pour libéraliser un secteur. Dans la plupart des secteurs qui ont été ouverts, Le modèle qui a été retenu, c'est de séparer l'entité qui gère l'infrastructure de l'entité qui gère l'exploitation de l'activité.
Ouais.
Et vous allez retrouver ce modèle dans le transport ferroviaire, par exemple. Vous allez le retrouver dans le secteur de l'énergie, etc. etc. Le modèle qui est choisi est celui d'une stricte séparation entre les deux activités, de manière à ce que celui qui gère l'infrastructure juge de manière égale l'opérateur en place et les nouveaux entrants. Et toute la mission des autorités de régulation va être de contrôler que ce gestionnaire de l'infrastructure reste dans cette logique d'égalité des chances.
Au final, c'est la même manière de réguler l'économie que ce qu'on a pu faire en matière d'institutions politiques. On sépare, on trouve des experts, on essaye de garantir une forme de liberté comme ça par la séparation.
On essaye de garantir au moins une égalité entre des gens qui doivent s'affronter sur un marché, pour que celui qui l'emporte sur le marché soit celui qui a fait la qui a été le plus méritant en termes d'efficience, de qualité de service, etc., etc. Et donc là où il ne peut pas y avoir de concurrence, les grandes infrastructures, c'est vrai dans le ferroviaire, le transport aérien, les aéroports, on ne peut pas multiplier les aéroports, donc les compagnies aériennes viennent bien tous sur un même aéroport qui lui donne lieu accès à ces infrastructures aéroportuaires moyennant un tarif régulé.
On va parler aussi des réactions que peuvent avoir les entreprises, en tout cas les acteurs du marché, au moment où on prévoit de libéraliser un secteur. On va entendre un son nous parler justement des autocars que vous avez déjà évoqués tout à l'heure.
Deviennent-ils ces 7000 passagers par jour du train, de l'auto ou sont-ils nouveaux? La croissance des cars est impressionnante mais ils restent minoritaires dans les transports, affichent 33% de remplissage. Les opérateurs multiplient donc les lignes, y compris sur les distances de moins de 100 km. Une vraie crainte pour les régions financeuses des trains régionaux.
Il y a une inquiétude, c'est vrai. On a près de 120 déclarations d'autocaristes pour exploiter des zones de moins de 100 km. 25 à peu près saisines des autorités organisatrices qui s'opposent à l'ouverture ou qui veulent une réduction de la fréquence, par exemple. Pour l'instant, nous avons estimé dans plusieurs avis qu'il n'y avait pas d'atteinte.
Et pourtant, les prix défient pour l'heure toute concurrence. 3,20 € par passager pour 100 km, dit la RAVER, c'est deux fois moins que le covoiturage, loin derrière le train, pas tenable sur le long terme.
Alors on entendait Anne Ivrande-Billon, à l'époque présidente de l'ARAFER, au micro de Marion Lourd sur France Inter le 21 mars 2016. David Bosco, justement, qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'ARAFER et de justement ces organes qui sont là aussi pour surveiller?
Alors d'abord sur cette problématique de la libéralisation de transport par autocar, c'est au fond on voit bien là l'audience que peut avoir l'autorité de la concurrence dans ses prises de position.
C'était un monopole au départ, hein, c'est ça?
C'était un système dans lequel les collectivités avaient un pouvoir de décision sur l'ouverture d'un transport par autocar. Et l'autorité de la concurrence donc fait ce constat en 2014 qu'il y a la place à côté du transport ferroviaire et d'autres moyens de transport d'un autre type de transport, le transport par autocar, qui peut répondre à la demande de certaines catégories de la population. Et donc il lance cet avis en 2014 qui va être entendu ensuite par la loi qu'on appelle la loi Macron, qui va libéraliser le secteur des autocars. Et donc on a donné compétence à l'ARAFER, qui était avant une autorité de régulation qui s'occupait seulement du transport ferroviaire, à l'ARAF de devenir l'ARAFER, puisqu'elle s'occupe aussi maintenant du transport par autocar, et bien de surveiller la mise en concurrence des différents opérateurs. Le secteur a beaucoup évolué depuis quelques mois, puisque maintenant on voit un mouvement de concentration du marché qui permet à la concurrence de se structurer. Et je pense que le rôle de l'ARAFER est important pour vérifier l'équilibre concurrentiel qui est en train de se mettre en place.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement de qu'est-ce qui se passe au moment de l'ouverture de la libéralisation d'un marché? Alors bien sûr les acteurs arrivent. Alors si on prend cet exemple des autocars, on pourrait en prendre un autre. Quels sont les mécanismes économiques particuliers qu'on peut observer, Laurent Benzoni?
Ce qui est différent dans l'autocar par rapport à d'autres secteurs qui sont ouverts à la concurrence, c'est que l'autocar, ça coûte rien pour entrer sur le marché. Il faut acheter un autocar
et embaucher des chauffeurs.
Dedans. Donc, ça attire vite beaucoup d'acteurs qui peuvent tout de suite devenir opérateurs sur ce nouveau marché qui s'ouvre. On pourrait évoquer, par exemple, le Uber.
Uber et les VTC.
D'ailleurs, sachant un point intéressant sur le transport par autocar, finalement, le transport ferroviaire longue distance a beaucoup plus supporté la concurrence de BlaBlaCar que des autocars, c'est-à-dire
du covoiturage.
Alors que les transports par autocar a manifestement donné l'opportunité à des personnes qui ne se déplaçaient pas de se déplacer.
Alors pourquoi ? Parce que finalement, ces gens-là...
Parce que c'était beaucoup moins cher, etc. Alors qu'avec BlaBlaCar, c'est plutôt là ce qui s'est passé. C'est plutôt un transfert de voyageurs SNCF qui sont venus en covoiturage.
Alors que les gens qui ont pris les cars beaucoup moins chers n'auraient peut-être pas voyagé tout
court. C'est exactement ce qui se passe aussi dans le transport aérien avec des compagnies comme Ryanair, où effectivement les gens qui se mettent à prendre l'avion étaient des gens qui ne prenaient pas l'avion. On n'a pas eu... Au départ, l'effet essentiel a été la création d'un nouveau marché, ou plutôt d'une nouvelle demande qui n'existait pas. Alors pour répondre à votre question, tout le monde rentre sur le marché. Effectivement, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les prix baissent, puisqu'il y a beaucoup d'offres. Les prix baissent à des niveaux qui ont été considérés comme étant déraisonnables par certaines compagnies qui ont porté plainte à l'autorité de concurrence pour dire que les prix étaient prédateurs dans ce domaine des autocars. L'autorité a dit, on est en phase d'entrée sur le marché, donc les gens font des prix bas pour pouvoir prendre des parts de marché. On ne peut pas juger que ce soit déraisonnable sur un terme aussi court. Et les prix étant bas, des pertes. Donc des pertes, ça veut dire, du point de vue économique, des entreprises en faillite. Donc un processus de reconcentration qui commence à se mettre en place dans le domaine des autocars. Et qu'on trouve ailleurs, dans le domaine des télécommunications, et qu'on trouvera dans d'autres domaines, comme celui de l'énergie, quand le marché aura un peu plus avancé.
On faisait le parallèle avec Uber et les taxis et les chauffeurs VTC, de manière plus générale. Il y a une différence, c'est que là, c'est le double problème, c'est-à-dire à la fois celui de la libéralisation d'un secteur, mais aussi des professions qui, elles-mêmes, étaient réglementées, puisqu'il y avait cette licence pour les taxis. David Bosco.
Oui.
Uber concentre tous ces problèmes en réalité, ces deux problèmes.
En effet, Uber concentre un certain nombre de problèmes, problèmes de statut. Je ne sais pas si le problème vient d'Uber ou s'il vient de la question des licences de taxi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas à armes égales. Et c'est ça qui est problématique, je crois. Puisque votre émission porte sur la concurrence déloyale, je crois que... On peut ici en trouver, sinon une manifestation, au moins quelque chose qui s'en rapproche, parce que je peux comprendre le dépit des taxis qui doivent financer les licences qu'ils ont acquises avec beaucoup d'efforts, voire arriver sur le marché des opérateurs qui ne souffrent d'aucune contrainte de cette nature, c'est un problème. Cela étant, les réglementations évoluent, et on voit... petit à petit se mettre en place des régulations pour Uber, que ce soit sur la question du droit du travail ou sur la question d'indemnisation des chauffeurs de taxi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution technologique ? On parlait d'innovation tout à l'heure, c'est aussi le passage à l'ère numérique qui a changé aussi la nature de certains marchés, notamment l'avènement de certaines plateformes, plateformes pour trouver d'autres moyens de transport notamment, mais c'est arrivé un peu dans tous les secteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est une innovation technologique qui finalement dérégule d'une certaine manière le marché. Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent Benzoni ?
L'Internet, appelons-le comme ça, puisque ce que vous appelez l'économie numérique, pour tout le monde le qualifie de l'Internet. L'Internet bouscule énormément de secteurs. Et, que ce soit le secteur de la distribution, où on voit que l'autorité de concurrence considère aujourd'hui que les magasins physiques peuvent être en concurrence avec des e-commerçants.
Alors, est-ce qu'ils sont tous déloyaux ?
Alors,
est-ce que cette concurrence est-elle vraiment déloyale ?
Oui et non. Oui, si effectivement il y a des restrictions, des restrictions réglementaires qui font que les opérateurs qui sont soumis à ces restrictions ne peuvent pas lutter à armes égales contre les nouveaux acteurs qui viennent et qui surgissent dans le domaine de l'Internet. Non, si on considère que ce sont plutôt les réglementations qui auraient dû s'adapter et évoluer. Et on a un peu des deux en général. C'est-à-dire que
la réglementation évolue un petit peu.
Pour parler de la distribution, la grande distribution n'a jamais été un secteur complètement ouvert à la concurrence puisque vous avez un urbanisme commercial qui est totalement régulé. Donc vous n'avez pas le droit d'implanter des grandes surfaces sans avoir passé par des commissions départementales. Tout ça a réglementé et régulé l'introduction des grands distributeurs avec leurs surfaces commerciales. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de réguler ça, puisque les gens vont de moins en moins dans les surfaces commerciales. Donc on pourrait faire sauter toutes ces réglementations qui ne servent plus vraiment à grand-chose, parce qu'il y a un secteur, l'Internet, qui émerge, qui fait que ça changera plus grand-chose. Les gens vont pas se déplacer de plus en plus dans les centres commerciaux comme ils l'ont fait dans les années 70-90. C'est que les gens vont aller de plus en plus sur l'Internet.
David Boscon, quand on parle de régulation, on parle aussi de sanctions. Qu'est-ce qu'on peut dire des sanctions face aux concurrences déloyales ?
Alors, les sanctions qu'on peut prononcer en France sont de nature. Il y a les sanctions administratives, ce sont des amendes ou des injonctions qui sont prononcées par des autorités de régulation. Ou bien il y a des dommages et intérêts, c'est-à-dire une indemnisation que l'on accorde à la victime d'un de ces actes de concurrence déloyale.
Est-ce que ces sanctions, elles ont évolué ?
Ah oui, elles ont beaucoup évolué. Elles ont évolué dans le sens de la sévérité. Si vous comparez les sanctions prononcées dans les années 90 et les sanctions prononcées aujourd'hui, vous trouverez un zéro ou deux zéros de plus. Donc tout a changé dans la politique répressive des autorités de concurrence.
Est-ce qu'on peut dire la même chose des autres pays européens ? Est-ce qu'il y a des spécificités justement nationales au regard des autres pays ?
C'est un mouvement général qui vient d'ailleurs sans doute de la théorie économique, qui a montré que nous avions des politiques répressives qui n'étaient pas suffisamment dissuasives, qu'il restait profitable de commettre l'infraction et d'encourir une sanction que de ne pas commettre d'infraction. Et donc les autorités de régulation partout dans le monde, les autorités de concurrence, ont compris qu'il fallait qu'elles soient plus sévères. Et la Commission européenne, c'est un autre exemple. Vous avez la Commission européenne qui a tout récemment prononcé une amende de 2,4 milliards d'euros à l'encontre de Google il y a quelques mois. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu il y a quelques années.
Tout à fait. Et la théorie économique, comme l'a dit le professeur Bosco, a soutenu depuis longtemps que si le crime paye en matière économique, on aura une réitération du crime. Les gens recommenceront. Donc si on veut éviter que le crime paye, il faut absolument élever le niveau des sanctions, parce qu'on aura des... Là, on n'est pas sur des comportements émotifs, on est sur des comportements rationnels. C'est-à-dire que si un manager prend la décision de faire une entente et qu'il sait que ça lui rapportera moins, normalement, il ne fera pas l'entente.
Et c'est le moment des nouvelles de l'écho. Monia Van de Castel, bonjour.
Bonjour Maëlys, bonjour à tous.
Alors l'histoire du jour.
Bien, son nom tient en quatre lettres, less comme moins en anglais. Alors si ça ne vous dit rien pour l'instant, c'est normal, c'est parce que ça sort tout juste de l'œuf. Il s'agit en effet du nom d'un service de mobilité urbaine, un de plus, lancé par Jean-Baptiste Rudel, le patron de Criteo, spécialiste du reciblage publicitaire, la pépite française valorisée plus de 2 milliards de dollars sur le Nasdaq. Alors comme il estime que le secteur du digital est monopolisé par les GAFA et que les opportunités de développement s'y font donc plus rares, l'entrepreneur a préféré miser sur le secteur des transports et plus précisément celui des transports urbains.
Donc c'est encore un concurrent de plus qui se lance dans la course.
Mais en effet, dans la course à l'optimisation du taux de remplissage des véhicules en ville, le service de l'Est va venir s'ajouter aux offres de covoiturage urbain comme WayzUp, Caros, IDVRoom, la filiale de la SNCF ou encore BlaBlaLines, la version courte distance de BlaBlaCar. Alors encore faut-il pouvoir résister à la concurrence et à l'offre déjà en place, ce qui ne peut pas se faire sans atteindre la nécessaire masse critique. Autrement dit, avant de chercher à séduire la demande, c'est-à-dire les utilisateurs du service, encore faut-il que l'offre soit au rendez-vous. Alors au préalable, il faut ainsi pouvoir compter sur un nombre suffisamment grand de conducteurs prêts à accepter de faire route commune avec d'autres covoitureurs. L'heure de recruter ces derniers viendra ensuite. Et si les calculs de Jean-Baptiste Rudel sont exacts, le service devrait ouvrir ses portes aux passagers début 2018.
Comment est-ce qu'on peut mesurer ces chances de succès ?
Eh bien, pour Jean-Baptiste Rudel, l'autre facteur clé de la réussite d'un tel projet, c'est le facteur humain, d'où la nécessité de savoir attirer à soi les talents, ce qui est un petit peu plus facile quand on peut se vanter d'un succès comme celui de Criteo. Alors la société compte pour l'instant une vingtaine de personnes, et avant même que le service ne soit lancé, son fondateur a réussi à boucler un tour de table de quelques 16 millions d'euros auprès des fonds d'investissement Index Ventures et Daphni, ce qui semble de bon augure. Reste à trouver un modèle économique viable.
Miser sur la voiture partagé, c'est l'avenir des villes.
Bien, c'est exact, hein, c'est ce vers quoi veulent tendre des villes, toutes les villes, et comme Paris d'ailleurs. Anne Hidalgo est présidente du C40 qui réunit 85 grandes villes mondiales mobilisées pour le défi climatique. Alors pour respecter l'accord de Paris et donc pour que le seuil critique d'un réchauffement climatique de 2 degrés soit tenu mondialement, les mégalopoles devront faire baisser leurs émissions de CO2. Or en ville, si des solutions comme Uber semblent en apparence réduire l'usage de la voiture personnelle, certaines études montrent que cela accroît tout de même un petit peu le trafic. Des solutions comme Autolib, en revanche, elles monopolisent de l'espace public qui se fait rare. Mais toutes ces solutions ont pour but d'améliorer le taux de remplissage des véhicules, qui n'est que de une personne, un tout petit peu plus, c'est 1,04 en moyenne par voiture. Alors l'adjoint au maire de Paris, Christophe Najdowski, aime d'ailleurs prendre l'image d'une rue congestionnée aux heures de pointe et il dit « Imaginez, si vous enleviez la carrosserie des véhicules, vous verriez alors moins de personnes sur la route que sur le trottoir. Tout l'enjeu est là. »
First off, say peace to Pine Ridge. Shame at all the damage that the white man wine did. Ghost dance, fella tears, 5 million beers a year, and all that other crime did. More pieces to the teachers of blind kids, to red bells and small cells, keeping their mind big. Say everything's hostile, suicide bombers and prosperity gospels, emaciated models with cocaine and blood pouring out their nostrils. They got to, just to stay awake on the catwalk of life where everybody watch you. Straight hair, high heels, and a handbag. Crucifixes, racism, and a land grab. Katrina, FEMA, trailers, human body sandbags. A peace sign and a pants sag. A money toss calls a nine-stripper mad dash. A friend request following a hashtag. Now everybody want it like the last laugh. A Michael Jackson jacket or a death mask. Purple Jordans or the mixed girl in your math class. Stable is when the bath had Baghdad. But corporate jets really had to have that gas band. War and they hope they all fall from the rat attack. Cause that's just more dinosaur for the Cadillacs.
Live from the other side, what you see? A bunch of nonsense on my TV. Heaven on earth is what I need. When I feel I'm in hell every time I breathe. Born live from the other side, what you hear? A bunch of nonsense all in my ear. Rich man, poor man, we all gotta pay. This freedom ain't free, especially round my
and
way.
Marvel at the state of heart of man. They turn around and treat Ghana like a garbage can. America's a big motherfucking garbage man. If you ain't know, you part and parcel of the proper land. You say no, you ain't, and I say yes, you is. Soon as you find out what planned obsolescence is. You say no, they didn't, and I say yes, they did. The definition of unnecessary nears. Manifested. Say that we should protest just to get arrested. That goes against all my hustling ethics. A bunch of jail niggas say it's highly ineffective. Depart from Martin, connect on Malcolm X tip. Insert Baldwin, it's similar to separate. To me, the truth is more fulfilling than a method of finding really fast internet to have some sex with. It's all one song short of a set list. Couple croissants shy of a continental breakfast. Or blowing out your birthday candles just to make a death wish. So absurd, word to Chief Bone Necklace. Down at the Lakota Sioux Casino, a whole culture boiled down to giving you Pacino. I go as left as a heart in the chest, cause the horn of Africa is now starving to death.
Loupé Fiasco, Around My Way, Freedom Ain't Free. Merci Laurent Benzoni et merci David Bosco.
Merci.
Je rappelle à nos auditeurs le nom de vos ouvrages, Laurent Benzoni, le traité d'économie industrielle aux éditions Economica et responsabilité et régulation économique aux presses de Sciences Po et Dalloz. Quant à vous, David Bosco, c'est le droit européen de la concurrence aux éditions Bruylant. Vous pouvez réécouter nos émissions à vie et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur les réseaux sociaux, Twitter, @mbesri, hashtag Entendez-vous l'écho, et bien sûr sur Facebook. On se retrouve demain pour le débat de la semaine.